Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. En somme, que sommes-nous supposés faire pour être sauvés et entrer un jour dans la famille divine en tant qu'êtres spirituels, glorifiés? Nous devons commencer par croire Dieu. À croire en Dieu, c'est une chose, mais croire Dieu, ce qui est différent. Et ensuite, deuxièmement, faire ce qu'il nous ordonne de faire. En somme, ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Toutefois, pour remplir ces deux conditions, nous devons commencer par apposer, figurativement parlant, notre signature à un contrat, signifiant que nous approuvons ce contrat à 100%, et nous nous engageons à le respecter. Pour nous autres chrétiens, ce contrat, Dieu l'appelle la nouvelle alliance. En somme, c'est assez simple, du moins de prime abord. Ce qui est ironique, c'est que des millions de croyants pensent être sous la nouvelle alliance, alors qu'ils ne sont pas d'accord avec ce contrat et ne le respectent pas. Pour être sous la nouvelle alliance, il faut en accepter les termes. Accepter les termes de ce contrat. Et dans les termes de cette alliance très spéciale, de ce contrat court en filigrane tout un cheminement qui doit être non pas passif, mais qui exige de nous de gros efforts, un comportement précis, des actions, des fruits. Nous venons d'observer la Pentecôte. Fête divine qui évoque l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire de la puissance de Dieu, communiquée aux vrais chrétiens. Le Saint-Esprit est communiqué à ceux qui obéissent à Dieu. Actes 5, 32. L'obéissance sous-entend, de notre part, des actions, un certain comportement, un certain rendement, pourrait-on dire, un certain rendement moral et spirituel, n'est-ce pas? Le développement d'un certain caractère. Ce n'est pas une occupation oisive. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent « Ah, je puis venir tel que je suis, et Dieu m'accepte tel que je suis. » Oh non, ça ce n'est pas biblique. Comme l'a précisé Paul, quiconque n'a pas l'Esprit de Christ, l'Esprit Saint, ne lui appartient pas. 1 Corinthiens 6, 15. Autrement dit, quiconque n'a pas l'Esprit de Christ n'est pas chrétien. Un chrétien, c'est par définition un disciple, un élève, un étudiant, un adepte de Christ. Si nous voulons être chrétiens, nous devons donc commencer par accepter le contrat de la nouvelle alliance, en respecter les termes et nous conformer à ces conditions, n'est-ce pas? Êtes-vous sous la nouvelle alliance? Je l'espère, mais c'est à vous de répondre à cette question. Vous connaissez votre cœur, vous savez qui vous êtes, vous savez où vous en êtes. En avez-vous accepté tous les termes? C'est primordial. Vous ne pouvez pas être chrétien si vous n'êtes pas conquis par Christ. Bon, conquis, bien, ça prend toute une vie, c'est vrai, mais c'est une attitude dont je parle ici. Nous devons être conquis de plus en plus par Christ, serait peut-être une meilleure façon de m'exprimer. Nous devons nous soumettre à lui. À nouveau, il est important pour nous aujourd'hui de nous poser la question, dans quelle mesure est-ce le cas? Si vous êtes sous la nouvelle alliance, vous n'êtes plus sous la loi ou sous la malédiction de la loi ou sous son amende, mais vous la respectez néanmoins. Cela, très peu de gens le comprennent. Qu'a dit Christ? Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, oh, il y en a des millions. » Ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, quand il reviendra, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? » Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, ce qui est donc possible? Et regardez la réponse de Christ, qui effraie un peu. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ou qui ne respectez pas ma loi, c'est ce que cela veut dire. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. De dures épreuves, une vive opposition, sous-entendu. Mais cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Matthieu 7, versets 21 à 27. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Combien de chrétiens croient cela? Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, et ils n'ont pas encore passé, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Cela donne... Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et qui sera le plus petit dans le royaume des cieux, sans doute fait-il allusion à celui qui s'en sortira à peine ou qui ne sera pas dans le royaume. Mais celui qui les observera, qui les mettra en pratique et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Qui sera appelé grand? Celui qui aura réussi. Celui qui sera un esprit glorifié dans la famille divine. Matthieu 5, versets 17 à 19. Dans le sermon sur la montagne qui jette les bases du vrai christianisme, Christ précise de quelle loi il veut parler. Il cite plusieurs des 10 commandements à partir du verset 21. De ce chapitre 5, que nous connaissons tous bien, le sermon sur la montagne. Pour bien montrer qu'ils ne sont pas abolis, ces commandements, loin de là, il les accomplit, leur donne toute leur force, révèle en quelque sorte leur intention, leur dimension spirituelle. Ce que des millions de croyants ne comprennent pas, c'est que la loi est spirituelle. La loi est spirituelle, comme Paul l'explique dans Romains 7, 14. Et dans les versets suivants. Ils ne comprennent pas qu'ils doivent changer, se repentir. Acte 2, 38. En somme, nous devons cesser d'être typiquement humains et devenir typiquement divins. Si nous croyons que la Bible dit vrai, nous savons que nous n'avons pas une âme immortelle, mais que nous sommes des âmes. Et que ces âmes sont mortelles, nous sommes mortels. La Bible rejette la fausse doctrine de l'immortalité de l'âme. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ils ne savent rien, ils n'ont conscience de rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Plus de mémoire, plus rien, il ne se passe plus rien. Ecclésiaste 9, 5. Et le verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » On ne peut être plus clair. Ézéchiel a bien dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, 20. Et comme l'a dit Paul, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Quiconque pêche transgresse la loi. transgresse aussi la loi, car le péché est une ou la transgression de la loi. Meilleure traduction, 1 Jean 3,4, version Osterwald. Or, comme le précise également Paul, nous méritons tous la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, 23. Mais il y a de l'espoir. Comme le précise la deuxième partie de ce verset, la seconde partie de ce verset, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, grâce à lui, par lui, notre Seigneur. Nous pouvons avoir la vie éternelle grâce à Christ, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime expiatoire, lit-on dans Romains 3, 25. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, 2. Christ a payé pour les péchés de tous ceux qui se repentent, qui se sont repentis, qui se repentent, qui se repentiront, futurs. C'est donc depuis Adam et Ève, dans le passé jusqu'à présent, et même dans les siècles à venir, dans le monde à venir, durant le millénium et lors de la deuxième résurrection, comme vous le savez. Quand nous nous repentons, le sang de Christ nous est appliqué. Nos péchés sont pardonnés et nous sommes réconciliés au Père. Si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, sous-entendu le Père, par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore plus, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation, comme je le disais, Romains 5, versets 10 et 11. La Bible est claire. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous enseignons, parce que c'est la vérité. Le pardon de nos péchés et notre réconciliation au Père ne se font que lorsque nous faisons partie de la Nouvelle Alliance, qui sous-entend une pleine soumission, l'obéissance, un repentir sincère, une croissance continuelle qui doit se poursuivre jusqu'à la fin de notre vie physique. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Matthieu 24, 13. Il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas changer d'avis. Une fois que nous sommes engagés, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Pierre a dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 3, 18. Un chrétien doit croître. Faire mourir ce qui, en lui, est charnel, les actions du corps. En somme, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, sous-entendu, éternellement même. Romains 8, 13. Je cite certains passages, pour le moment, nous ne nous y reporterons pas, mais plus tard, un temps pour chaque chose. Ces versets que nous évoquons sont fondamentaux. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Je parlais de capitulation tout à l'heure. Un chrétien, c'est quelqu'un qui capitule devant Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Spirituellement, nous étions tous morts. Nous sommes vivants maintenant. Il s'agit des vrais chrétiens. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Il ne s'agit pas d'offrir votre main ou votre bras ici. Vos membres, sous-entendu, offrez-vous. C'est une image ici. Offrez vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, non sous son amende, puisque vous avez été réconciliés, mais sous la grâce. Un vrai chrétien est sous la grâce. Posons-nous les questions, est-ce que cela me décrit, moi? À vous de répondre. Quoi donc? Pécherions-nous donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? C'est ce que beaucoup de chrétiens prétendent. Ils disent, Christ a tout fait à notre place, nous n'avons rien à faire. Oh, puis vous savez, on est humain, on ne peut pas. Non, nous sommes responsables et Dieu veut que nous changions à nouveau. Et Paul insiste, il dit, pécherions-nous donc parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là! Loin de là! Il met l'accent là-dessus. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et là, à nouveau, il parle à des vrais chrétiens. Il est donc possible pour un vrai chrétien, de pécher à nouveau. Sinon, il ne dirait pas cela. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, et c'est ce que nous étions de par le passé, nous le sommes encore dans une certaine mesure, mais de moins en moins, nous croissons. Vous avez obéi de cœur, à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Esclave ou serviteur de la justice. Je pense que dans le grec, le mot doulos peut dire serviteur ou esclave. Je pense qu'ici, on est plutôt serviteur de la justice. Moi, je ne me vois pas comme esclave de la justice. Sous la justice divine, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux que je ne me considère pas comme un esclave. Bon, peut-être c'est mon opinion, vous me direz, mais à nouveau, on peut traduire ce mot de deux façons. Ça, c'est dans Romains 6, versets 13 à 18. C'est ce que nous venons de lire, ou que je viens de lire pour vous. Si vous demeurez dans ma parole, a dit Christ, vous êtes vraiment mes disciples. Vous demeurez dans ma parole. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous ne serez plus esclaves, vous serez libres. Il vous affranchira. Ça, c'est dans Jean 8, versets 31 et 32. Où en sommes-nous à ce sujet? Le monde est rempli de gens qui ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, dans bien des cas, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Cela décrit-il notre monde, beaucoup dans notre monde? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. À nouveau, il y a une distinction entre les deux. Si du moins vous l'avez entendu. Si. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Pas question de rester oisif, de ne rien faire. Nous devons nous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme ou de la vieille femme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. À nouveau, il y a des résultats qui doivent être produits. Éphésiens 4, versets 18 à 24. En somme, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous ou sous la malédiction ou l'amende de la loi. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, pas une seule rivalité, les rivalités plurielles, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, déjà 15 choses, et les choses semblables. Donc, Paul ici ne se limite pas à ces choses. Il dit « et les choses semblables », les choses qui ressemblent à cela, qui sont du même genre. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, et c'est là qu'il change de ton et il parle du fruit de l'esprit. C'est ce que nous devons avoir. Le fruit de l'esprit, par contre, par opposition, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Il faut bien comprendre cela. Tant de chrétiens, des millions de chrétiens ne comprennent rien à cette loi divine. S'imaginent, oh, les lois, oh, pff, oh, il faut observer la loi. Mais ils ne comprennent pas à nouveau que cette loi est spirituelle. Elle décrit les pensées divines. C'est comme cela que Dieu voit les choses. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ouh, c'est fort. On crucifie la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Soyons logiques. Galates 5, versets 18 à 25. En somme, nous sommes une très rare église. À ne pas croire que Dieu est une trinité. La trinité n'est pas biblique. Vous avez le conseil des églises. La plupart des églises du monde ont un conseil, le conseil des églises. Qu'est-ce qui les caractérise? Elles croient toutes à la Trinité, que Dieu est une Trinité. Ils limitent Dieu. Dieu est en train de se reproduire, ils ne veulent rien avoir à faire avec ça. Pour le moment, il y a deux individus, deux êtres dans la famille divine. Beaucoup ne comprennent pas cela. Deux êtres, le Père et le Logos, ou le Fils, celui qui est devenu Jésus-Christ. Dieu, deux personnes, pas trois. Dans tout le Nouveau Testament, le Saint-Esprit n'est jamais décrit comme une personne. Dans le grec, lorsqu'il est question du Saint-Esprit, il était question du pronom neutre qui parle d'une chose, ou d'une puissance, d'un pouvoir, mais pas d'une personne. Dans toutes les salutations que Paul donne dans ses épîtres, jamais il n'est question du Saint-Esprit. Salutations à Dieu le Père et à son Fils Jésus-Christ, etc. En général, c'est comme cela. Il n'est jamais question du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Mais les églises de ce monde croient en la Trinité. Or, la Bible est claire, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors, là, vous avez une distinction très nette qui est établie. La parole était avec Dieu, donc si vous êtes avec quelqu'un, il y a une séparation déjà, il est question de deux êtres. C'est pourtant pas compliqué. Avec Dieu, et la parole était Dieu, donc cette parole non seulement était avec Dieu, mais elle était Dieu. Elle est Dieu. Donc vous avez deux individus. Elle était au commencement, la parole avec Dieu au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Wow, toutes choses ont été faites par elle. Tout ce qui a été créé, l'univers physique, les planètes, tout, l'homme, la faune, la flore, etc., tout a été créé par elle. Par qui? Par la parole. Par ce deuxième membre de la famille divine, par celui qui est devenu Christ. Et qui, incidemment, était aussi l'Éternel de l'Ancien Testament. 1 Corinthiens 10. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. À mon avis, c'est clair. Pour nous qui comprenons, on se dit, mais c'est très clair ça. Pourquoi est-ce que des millions de croyants ne croient pas ce qui est écrit ici? En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, ces ténèbres spirituelles, ces ténèbres de ce monde. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, ce n'était pas lui qui était la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est tellement poétique tout ça, c'est très profond. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, espérons, vous et moi, nous tous, aux croyants, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. desquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, nés de Dieu. Et la parole a été faite chair. Donc, la parole, cet être qui était auprès du Père, qui est Dieu aussi, a été faite chair, a été incarnée. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Quelle belle description! Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. » Réfléchissez un instant ce qui est écrit ici. Rappelez-vous que Jean-Baptiste était plus vieux de 6 mois que Jésus. Et pourtant, il dit, « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Allusion est faite ici à la préexistence de Jésus, qui était auprès du Père avant de devenir homme pour un temps, pour devenir notre Sauveur. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Que c'est profond tout ça. Personne n'a jamais vu Dieu. Ah ! Personne n'a jamais vu Dieu. Combien croient cela aussi ? Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Christ est venu nous présenter le Père, faire connaître le Père. Le Père était peu connu dans l'Ancien Testament. Jésus, qui incidemment n'avait pas péché et de ce fait n'avait pas besoin d'être baptisé, se fit cependant baptiser pour nous montrer l'exemple. Dans la Bible, le baptême se fait par immersion totale dans l'eau. Quand Jésus se fit baptiser, il est écrit qu'il sortit de l'eau, du Jourdain. Matthieu 5, 13 à 17. Quand l'eunuque fut baptisé, il le fut à un endroit où il y avait assez d'eau. Actes 8, 36 à 39. L'eunuque et Philippe entrèrent dans l'eau et sortirent de l'eau, lit-on dans la Bible. Le baptême revêt un profond symbolisme. Il représente un ensevelissement total de notre ancienne vie pécheresse et la purification de nos péchés marquant une nouvelle vie, selon l'Esprit. Reportons-nous à Romains 6, verset 3. Romains chapitre 6, verset 3. Nous allons nous reporter à plusieurs passages tout de même. Romains 6 et le verset 3, pour commencer. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Intéressant, il est ressuscité des morts par la gloire du Père. Il ne s'est pas ressuscité lui-même. Le Père a permis qu'il soit ressuscité. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, avec Christ, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Il y a tout un symbolisme merveilleux dans le baptême. Sachant que notre vieil homme ou notre vieille femme a été crucifié avec lui. Bon, nous ne sommes pas, physiquement parlant, crucifiés, mais spirituellement, oui, nous avons été crucifiés, nous avons été mis à mort, le vieil homme a été mis à mort, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Verset 11, « Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Comprenez-vous cela, frères et sœurs ? Colossiens 2, 12, Colossiens chapitre 2 et verset 12. « Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. À nouveau, une distinction entre celui qui l'a ressuscité et celui qui est ressuscité. Deux êtres dans la famille divine, pour le moment. Après, des milliards d'autres vont être ajoutés, mais pour le moment, il y a deux êtres dans la famille divine. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas cela, qui croient que Jésus-Christ était un être créé, qui a été créé après. Non, Jésus-Christ était Dieu. J'ai expliqué ça dans un autre message. C'est très clair selon la Bible. Si vous n'y croyez pas, écoutez, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous êtes séduit. Vous ne comprenez pas ce que dit la Bible. Galates 2:20, hein, je vais le lire rapidement, faute de temps, j'ai été crucifié avec Christ. C'est Paul qui parle. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelle belle image à nouveau. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au, ou plus précisément du, c'est une meilleure traduction, dans la foi du Fils de Dieu. Il s'agit de sa foi à lui. Il ne s'agit pas seulement de croire au Fils de Dieu, mais sa foi à lui, la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En somme, c'est aussi cela, être chrétien et être converti. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. Et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Luc 6, versets 43 à 46. Que voulons-nous? Que cherchons-nous? Qu'attendons-nous de l'Église? Qu'est-ce qui nous motive? Nous avons besoin du Saint-Esprit pour avoir la force de faire ce qui est juste. Nous venons de célébrer la Pentecôte qui met l'accent sur le fait que l'homme a été créé incomplet. Et le seul moyen pour lui de s'épanouir totalement et d'accéder à son plein potentiel est de devenir comme Dieu, grâce à l'addition dans l'esprit humain du Saint-Esprit, des pensées du Père, des idées du Père et du Fils, mais aussi de leur vouloir, de leur volonté. Nous avons tous été créés pour vouloir, pour bien vouloir, pour exercer la bonne forme de volonté. Nous avons parmi nous des personnes animées d'une forte dose de volonté. Quand quelqu'un a beaucoup de volonté, on dit qu'il est ou qu'elle est volontaire. Le commun des mortels a également une force de volonté moyenne. D'après le dictionnaire, la volonté, c'est, je cite, « la faculté de se déterminer par rapport à des actions et à les réaliser ». C'est la puissance intérieure par laquelle l'homme se détermine à faire ou à ne pas faire quelque chose. On parle de volonté considérée comme agissante, entre guillemets à nouveau, ce qu'une personne veut, prescrit ou désire, etc. Et c'est le genre de définition que vous trouverez dans un dictionnaire, si vous consultez un dictionnaire pour le mot volonté. Mais pour nous autres chrétiens, quelle place la volonté devrait-elle occuper dans notre vie? Christ, avant de subir le terrible supplice de la flagellation et de la torture, puis de la crucifixion, conscient de ce qu'il allait devoir endurer pour être sauveur de l'humanité, eut, rempli d'effroi, une réaction humaine légitime, demandant au Père, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Il y avait le salut de milliards d'individus qui se jouaient à ce moment-là. Luc 22, verset 42. Il y avait un message de grande importance dans ces paroles. Christ s'inquiétait bien plus de la volonté divine que de la sienne. en tant qu'homme. Cet épisode symbolisait deux types de volonté, la volonté humaine et la volonté divine. Quelle est notre volonté? Quelle est notre volonté? S'aligne-t-elle sur celle de Dieu? L'Éternel avait placé dans le jardin d'Éden deux arbres, symbolisant ou bien la volonté humaine ou bien la volonté divine. L'homme avait le pouvoir de choisir entre ces deux arbres. Nos premiers parents avaient le pouvoir d'accepter la volonté divine ou de se laisser influencer par Satan qui, supposément, avait une meilleure voix que celle de leur Créateur. La décision qu'ils prirent allait déterminer le genre de volonté qu'ils allaient, eux et leurs descendants, avoir. Une volonté limitée basée sur leurs cinq sens, sur une perception humaine et physique des choses, sur les connaissances qu'ils allaient acquérir sans l'aide de leur Créateur, une volonté influencée par Satan. En somme, il existait au départ, en Éden, trois sortes de volontés. Celle de Dieu, celle de Satan et celle d'Adam et Ève. Pour nous, le choix se limite en fait à deux types de volontés, la volonté humaine et la volonté de Dieu. C'est l'un ou l'autre. La volonté divine est indivisible, indivisible. Par contre, il existe plusieurs degrés de volonté humaine. La question pour nous est de savoir ce que nous voulons. Humainement parlant, nous pouvons vouloir avec plus ou moins de force, n'est-ce pas? Nous avons tous plus ou moins de volonté. Theodore Roosevelt, homme d'État américain, 1858-1919, président des États-Unis de 1901 à 1909, qui sut tirer parti de la dimension publique de ses fonctions pour être l'un des chefs d'État les plus populaires de l'histoire américaine, déclara ce qui suit dans un discours à la Sorbonne en 1910, et je cite, « Peu importe les critiques, peu importe ceux qui critiquent le fort quand il trébuche, et explique ce que ceux qui agissent auraient plutôt dû faire. » Et nous en avons comme ça, n'est-ce pas? La gloire revient à l'homme qui se trouve réellement dans l'arène, à l'homme au visage maculé de poussière, couvert de sueur et de sang. Elle revient à celui qui fournit de vaillants efforts, qui se trompe, certes, qui échoue de peu, encore et encore, car il n'y a pas d'effort sans erreur ni échec, mais qui cherche réellement à accomplir quelque chose. Elle revient à celui qui sait s'enthousiasmer, se dévouer à fond, pour une noble cause, à celui qui, au mieux, connaît le triomphe pour avoir réussi et qui, s'il échoue, le fait au moins après avoir osé, de sorte que sa place ne se trouve jamais parmi ces froides et timides âmes qui ne connaissent ni victoire ni défaite. Theodore Roosevelt avait également dit ce qui suit. Quand on vous demande si vous êtes capable de faire un travail, répondez « Bien sûr, je peux. » Puis, débrouillez-vous pour y arriver. Il a aussi dit « Le seul homme à ne jamais faire d'erreur est celui qui ne fait rien. » Le mérite est à ceux qui luttent constamment. Et il a encore dit ceci, c'est dur d'échouer, mais c'est pire de n'avoir jamais essayé de réussir. Dans cette vie, on n'obtient rien sans effort. Il avait raison. Et ses propos avaient beaucoup à faire avec la volonté, n'est-ce pas? Êtes-vous une personne de forte volonté? Et de quelle sorte de volonté êtes-vous animé? Les paroles de Christ, peu avant sa mort, étaient chargées de sens. Elles revêtaient un profond symbolisme. Pour lui, le choix du bon type de volonté était une question de vie et de mort, spirituelle. Il devra en être de même pour nous, frères et sœurs. Ayant été créés avec le libre arbitre, nous pouvons décider de ce que nous allons faire. Mais éventuellement, notre volonté d'agir d'une manière ou d'une autre doit rejoindre la volonté divine. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes appelés, si nous sommes convertis, si le Saint-Esprit habite en nous et agit en nous, notre volonté doit tôt ou tard se fondre avec celle de notre Père céleste et de Christ. Dieu nous a créés avec une volonté humaine qui au départ était neutre. Puis il y a eu en Éden la chute et le choix hautement symbolique de nos premiers parents, et cela a engagé l'humanité sur une voie où la volonté humaine ressemble davantage à celle de Satan qu'à autre chose. Un homme sans volonté et sans force est un nuage qui se résorbe dans l'atmosphère. Il est aussi déplacé dans ce monde qu'un papillon dans l'océan, écrivait Henri-Frédéric Hamel le 19 août 1871 dans son journal intime. Intéressant, je trouvais. Nombreux sont ceux qui mesurent l'importance de la volonté. Mais notre problème à nous autres humains, comme le disait Montesquieu, c'est que la plupart des hommes sont de bonne volonté, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Mais cela nous décrit-il, frères et sœurs, nous qui connaissons la vérité, qui sommes dans l'Église, et je parle aux convertis, vous et moi, nous voudrions non seulement avoir plus de volonté, mais aussi plus de volonté pour accomplir la volonté de Dieu. Mais puisque nous sommes libres de choisir et de décider ce que nous voulons faire, nous devons développer la volonté de nous soumettre entièrement à notre Père céleste, n'est-ce pas? Baden-Powell ou Baden-Powell, fondateur du scoutisme, disait « La bonne volonté est la volonté de Dieu ». Il avait raison. Il y a divers degrés de volonté humaine, il doit y avoir en nous au départ un désir intense de faire ce qu'il y a de mieux. Êtes-vous à la recherche de l'excellence dans tout ce que vous faites? Vince Lombardi a écrit ceci, il a dit « La qualité de la vie d'une personne est en rapport direct avec sa volonté d'exceller, quel que soit le domaine où elle s'exerce. » Est-ce notre optique? La volonté humaine n'est pas celle de Satan. Elle peut se fondre à elle, si c'est ce que nous voulons, mais l'homme, de par ses choix, accepte plus ou moins des éléments de la volonté de Satan. Nous avons été créés libres, libres de choisir. Notre vie est faite de millions de choix. Certains futiles et sans conséquence, comme si nous décidons de boire du café ou du thé, ou choisissons un vêtement plutôt qu'un autre, une couleur plutôt qu'une autre, mais il y a aussi une foule de choix qui ont des répercussions spirituelles, car elles façonnent notre caractère. Ces choix façonnent notre caractère. Ce caractère est étroitement lié à notre volonté et au choix qu'elle engage. Tout être humain qui refuse de reconnaître l'existence de Dieu engage automatiquement sa volonté, son libre arbitre, dans un processus de destruction et de corruption auquel Paul a parlé dans Romains 1, passage qui nous est tous familier. Quand notre volonté est de rejeter Dieu et sa volonté, notre esprit humain se corrompt et s'engage dans la voie du péché qui mène à la mort. Romains 6, 23. Il y en a parfois parmi nous même quelques-uns qui jouent avec le feu et se moquent consciemment ou inconsciemment, et j'espère plutôt inconsciemment, de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Voilà l'avis que Dieu donne. Ils sont inexcusables. Ils ont toutes les preuves devant leurs yeux. Ils rejettent Dieu. Nous savons que ça, c'est Romains 1, versets 18 à 25, etc. Quand Albert Camus disait « Le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout », c'est Albert Camus qui disait ça, il ne faisait qu'énoncer ce que beaucoup d'humains pensent. à savoir que pratiquement rien n'est impossible à l'homme pourvu qu'on ait de la volonté. Ce qui pour nous, évidemment, n'est pas le cas. Et pour ce qui est de la manière d'y parvenir, elle est importante, contrairement à ce qu'il pensait. Mais à nouveau, il se plaçait au point de vue humain. Pour lui, le chemin importait peu. Pour nous, chrétiens, il est capital. Car ce que nous recherchons, c'est la volonté de Dieu. Mais pour accomplir la volonté divine, nous devons développer en nous une volonté, non pas une volonté humaine, ou une volonté humaine de manière à volontairement orienter nos pensées et nos actes vers Dieu. Et nous devrions tous avoir suffisamment de volonté afin de faire ce que nous avons décidé. Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le rêver, l'intelligence d'en faire un projet réaliste et la volonté de voir ce projet mené à bien, disait Sidney Friedman. Pour nous, ce projet est avant tout celui de Dieu. Mais il doit aussi être le nôtre. Sommes-nous impliqués? Travaillons-nous avec lui? Le Saint-Esprit agit-il en nous? La volonté permet de grimper sur les cimes. Sans volonté, on reste au pied de la montagne. C'est ce que dit un proverbe chinois. Ben, notre volonté s'aligne-t-elle sur celle de Dieu au point de se fondre de plus en plus avec elle? Chaque jour, davantage. Quelqu'un a dit « Le désir est un attrait que l'on subit, la volonté un pouvoir que l'on exerce. » Il est absurde de chercher en soi-même la volonté sans la volonté de la trouver. Et comme le disait Alain-Henri-Frédéric Amiel dans son journal intime, « La science et la purification de la volonté doivent être nos ancres de salut. » Ça c'est bien dit. C'est en fait, et le savait-il, ce que notre Père Céleste attend de nous. Étant dotés de libre arbitre, de liberté de choix, nous autres humains devons décider quelle orientation va prendre notre vie. La résolution est la hache d'abordage de la volonté, disait Jean-Louis Auguste Commerson dans sa petite encyclopédie bouffonne. Ah, il n'avait pas tort. On ne gouverne pas avec des désirs, mais avec des volontés fermes et constantes, disait Félicité Robert de Lamennais. En somme, que voulons-nous? Que cherchons-nous? Qu'attendons-nous de l'Église? Êtes-vous là pour ressasser le passé, pour blâmer? Ou cherchez-vous à tout prix la volonté de Dieu? Allant de l'avant, étant là pour croître et vous préparer pour l'avenir que notre Père Céleste nous réserve, qu'est-ce qui occupe nos pensées, vos pensées? Que faut-il croire et surtout pratiquer pour être un vrai chrétien? J'ai mentionné cette phrase dans mon sous-titre, dans le sous-titre de mon sermon aujourd'hui. Êtes-vous totalement impliqué dans l'accomplissement de la nouvelle alliance dans votre vie? Votre volonté s'aligne-t-elle sur celle de Dieu? En somme, que sommes-nous supposés faire pour être sauvés et entrer un jour dans la famille divine en tant qu'êtres spirituels glorifiés? Nous devons commencer par croire Dieu et ensuite faire ce qu'il ordonne de faire. Je répète ce que je disais au début. En somme, ce n'est pas compliqué. Ayez la volonté et la persévérance et vous ferez des merveilles, disait Benjamin Franklin. Bon, il disait cela au niveau humain, mais pour nous, cela s'applique aussi et surtout au niveau spirituel. Quand Louis Dumur dit que la volonté n'a d'action sur les passions que si elle est une passion elle-même, cela s'applique d'autant plus à nous, chrétiens, en ce sens que ce que nous voulons faire et faisons doit être une passion en soi. Sommes-nous des passionnés de cette ligne de vie qu'est celle des prémices que nous sommes? Ou sommes-nous blasés? À vous de répondre. Sondons nos cœurs, frères et sœurs. Que croyez-vous des croyances fondamentales que les dames suivent et pratiquent? Soyez honnêtes. Êtes-vous impliqués ou avez-vous encore des choses à redire? On nous demande parfois de changer ce que nous publions ou affichons. S'il est vrai que nous ne sommes pas parfaits et acceptons volontiers de bonnes suggestions, nos croyances ne changent pas. Et elles ne continueront, et nous continuerons de proclamer la vérité tant que Dieu nous permettra de le faire. Il ne s'agit pas de notre vérité, mais de celle de Dieu. Et cette vérité nous passionne, parce qu'elle est éternelle. La fatalité, c'est l'excuse des âmes sans volonté, disait Romain Rolland. Oh, qu'il avait raison. Il n'y a pas de véritable action sans volonté, disait Jean-Jacques Rousseau. Pour que notre comportement et nos actions se conforment à la volonté de Dieu, nous devons commencer par aligner notre volonté sur celle de Dieu. Edmund Spencer a dit quelque chose que je trouve très perspicace. Il a dit, et je cite, « que nul n'attribue à soi-même les victoires qu'il doit à la grâce. Nous n'avons de force que pour le mal. Tout le bien vient de Dieu en acte ou en volonté. » En somme, il est grand temps que les critiques et les rouspéteurs cessent de rouspéter et de se plaindre, et qu'ils se mettent à faire quelque chose de vraiment constructif. Nous aurons toujours parmi nous des gens qui se prendront pour Dieu, des rebelles et des inconvertis qui ne cherchent que leur volonté et dont la ruine est annoncée. C'était le cas au premier siècle, ça a été le cas au fil des siècles, et rien n'a changé. Nous avons toujours parmi nous, de temps à autre, de tels individus. Ce que je vous demande aujourd'hui, frères et sœurs, c'est d'examiner votre cœur et de vous demander si vous allez poursuivre votre route à votre guise ou si vous allez avancer et croître toujours davantage grâce au Saint-Esprit. On ne se moque pas de Dieu. Il y en a toujours qui veulent enlever des chapitres entiers à la Bible parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit. Nous n'avons pas cette habitude. Notre version Second ou la version Osterwap, tout dans ces Bibles est à sa place et nous y croyons. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'était dans Galates 6, versets 7 à 9. Êtes-vous d'accord avec ce que les dames enseignent sur qui est Dieu, sa nature et son identité, ou je pourrais dire leur nature et leur identité, puisqu'il s'agit de deux êtres merveilleux, du Père et du Fils? Deuxièmement, sur le règne des anges et Satan, êtes-vous d'accord avec ce que nous enseignons? Êtes-vous d'accord avec ce que nous disons sur la nature de l'humanité? Ensuite, sur la destinée des êtres humains, sur la parole de Dieu, la Bible, ce que nous publions, ce que nous affichons, êtes-vous d'accord? Avez-vous des réserves? Avez-vous votre petite idée là-dessus? Que dire sur le péché, la loi divine, sur le sacrifice de Christ, sur les trois jours et les trois nuits, sur le repentir, sur le baptême par immersion, sur le sabbat, sur la Pâque, sur les fêtes de l'Éternel, sur les lois bibliques alimentaires, sur les dîmes, sur le service militaire et la guerre, sur l'Église de Dieu, sur les promesses faites à Abraham, sur le retour de Christ sur terre et sur les résurrections. 20 rubriques. Nos croyances fondamentales. Y croyez-vous? Nous n'allons pas les changer. Elles sont ce qu'elles sont. Elles sont la vérité. Sur laquelle de ces rubriques n'êtes-vous pas d'accord? Sondez votre cœur. Le Saint-Esprit est la puissance la plus colossale, la plus merveilleuse dans l'univers. Agit-il puissamment en vous Le 16 juillet 1945, la première bombe atomique était détonée dans l'État américain du Nouveau-Mexique et avait une puissance de plus de 20 000 tonnes de TNT. Les deux bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945, d'une puissance de 15 000 tonnes et de 20 000 tonnes de TNT, ont rasé totalement les deux villes en quelques secondes, tuant plusieurs centaines de milliers de personnes. Parlez de puissance. Parlons de puissance. À présent, ces deux bombes passent pour de petites bombes. Castle Bravo était la bombe atomique la plus puissante détenée par les États-Unis sur l'atoll de Bikini. Le 28 février 1954. Et elle produisait une puissance explosive de 15 millions de tonnes de TNT. 15 millions de tonnes de TNT ou 15 mégatonnes. La bombe russe Tsar Bomba, surnommée par les Russes Kuzkina Mat, expression signifiant vous allez voir, sous-entendu vous allez voir ce dont nous sommes capables, détonée le 31 octobre 1960, avait une puissance explosive de 58 000 kilotonnes, soit près de 6 000 fois plus que la bombe larguée sur Hiroshima. L'explosion a produit un champignon nuageux de plus de 64 kilomètres de haut, soit près de 8 fois l'altitude du mont Everest. La détonation a cassé des carreaux de fenêtres en Finlande et en Norvège. La réussite totale de cet essai a apparemment prouvé qu'il est possible de fabriquer des dispositifs d'une puissance quasi illimitée. Mais est-ce le cas? Une puissance quasi illimitée à partir du principe proposé par Sakharov et plusieurs autres savants russes. Si l'homme, comme on le prétend, peut fabriquer des dispositifs d'une puissance pratiquement illimitée, il est effrayant d'imaginer ce qui se produirait si Dieu, dans sa miséricorde infinie, n'avait pas prévu de faire revenir son Fils sur terre. Les pouvoirs mis à la disposition de l'homme sont énormes. Néanmoins, ils ne sont rien comparés au pouvoir de notre Créateur, comme en témoignent les forces de la nature, comme les ouragans, et l'incroyable puissance du Saint-Esprit. Nous rendons-nous compte de ce que cela signifie? Comme il se trouvait avec eux, Jésus recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem à ses disciples, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, vous recevrez une puissance. Il ne s'agit pas d'un individu, il s'agit d'une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il se projetait dans le temps, ce n'était pas seulement pour cette époque-là, mais ce qui allait se produire au fil des siècles et notre époque. Acte 1, 4, versets 4 et 8. Cette promesse, Jésus la fit à ses vrais disciples. À un autre moment, il plaida avec la foule. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, mais il ne s'agit pas de boire de l'eau, a soif de vérité, a soif de justice, c'est de cela qu'il est question. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, qui a la foi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Bon, il ne parlait pas de l'eau physique. C'était une image d'une grande puissance. Il dit cela de l'Esprit, verset 39, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ça s'agit de Jean 7, verset 37 à 39. Qu'est-ce qui identifie les vrais disciples, les vrais chrétiens? Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comment se fait-il que des millions de croyants ne croient pas à cela? Ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas à ce qu'il dit. J'ai dit, il faut commencer par croire Dieu. Eh bien, de croire en Dieu, des millions de gens croient en Dieu, mais ils ne croient pas ce que Dieu dit. Ils ne croient pas Dieu. Il y a une grande différence entre les deux. Et cela nous touche personnellement. Est-ce que nous croyons ce que nous sommes? Est-ce que nous croyons ce que nous lisons dans la parole de Dieu, la Bible? Ou alors est-ce que nous essayons de trouver des échappatoires, de trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas faire ce que Dieu dit? Je répandrai des eaux sur le sol asséché et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons, prophétisa Ésaïe dans Ésaïe 44, verset 3. Est-ce que nous croyons toutes ces choses, frères et sœurs? Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice, est-il écrit dans Romains 8, 10. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai faits. Ésaïe 43, versets 6 et 7. Et reportons-nous à Éphésiens 2, maintenant Éphésiens 2, 10, Éphésiens 2, 10. Qui sommes-nous? Nous venons d'observer cette fête de la Pentecôte d'une grande signification, d'un symbolisme profond. Qu'allons-nous faire à partir de maintenant? Ou qu'allons-nous continuer à faire si vous êtes en Christ? Vous savez ce dont je veux parler. C'est un processus qui dure toute une vie, n'est-ce pas? Éphésiens 2, 10. Nous sommes sans ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Des millions de gens croient que les œuvres, ça n'a pas d'importance. En d'autres termes, le caractère, ça n'a pas d'importance. Vous êtes ce que vous voulez, vous ne faites rien et vous serez dans le royaume? Non. Ils sont séduits, un jour ils comprendront. Ce n'est pas de leur faute, aujourd'hui ils ne sont pas prêts, mais... Et prions pour eux, et un jour ils auront leur chance, mais ne les suivons pas. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. À nouveau, ça, c'est assez clair, n'est-ce pas? Combien croient cela, par contre? Afin que nous, que Dieu a préparé d'avance, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y pensions. Non. Que nous les pratiquions. Voilà ce qui est écrit, que nous les pratiquions. Bon, Christ avait cet esprit sans mesure, mais nous n'avons qu'une portion pour le moment. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout, celui qui est sur la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Et c'était le cas à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. C'est ce que Jean disait. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Quand Christ est venu, il n'avait pas l'esprit avec mesure. Il en était complètement saturé. Bon, nous avons une petite dose. Mais un jour, vous et moi, nous allons avoir la plénitude de l'esprit. La plénitude de l'esprit. En somme, que sommes-nous supposés faire pour être sauvés, entrer dans un jour dans la famille divine, en tant qu'être spirituel et glorifié? Nous devons commencer par croire Dieu et ensuite faire ce qu'il nous ordonne de faire. C'est simple. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un Dieu? Tu fais bien. Est-ce qu'il y a un mérite à cela? Est-ce qu'il y a un mérite? Ça devrait être évident pour tout le monde. Les démons le croient aussi. Les mauvais esprits croient en Dieu. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Jacques 2, 17, 20. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat. Je vous souhaite bon courage. Je vous dis au revoir et à bientôt.